Merci. Bonne année avec Sounou Assurance, qui a le profil pour vous accompagner pendant ces 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suivez Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les écrans sont partout et à la portée, y compris de toutes petites mains, capables de façon étonnamment précoce d'en comprendre les rudiments et le fonctionnement, tapoter, cliquer, sélectionner ou balayer d'un petit doigt. Ces écrans qui captivent, et si certains saluent leur potentiel, d'autres s'alarment de leur omniprésence et des effets néfastes qu'ils peuvent avoir sur le développement des plus jeunes, dépendance, irritabilité, repli sur soi, dans certains cas, décrochage scolaire et troubles du comportement. Des signes peuvent inquiéter certains parents sans pour autant qu'ils ne fassent toujours le lien avec cette télé allumée en permanence ou des écrans à disposition jusque dans les chambres à coucher. Des excès qui appellent pourtant à la vigilance. Le groupe de pédiatrie générale a rédigé des recommandations pour l'usage des écrans par les enfants en conseillant d'éviter l'accès en solitaire et de sanctuariser certains temps de la vie familiale comme certains lieux de la maison. La semaine dernière, le plan national de mobilisation contre les addictions à intégrer cet usage excessif des écrans au nombre de ses préoccupations, en pointant l'importance d'un repérage précoce des usages problématiques d'écran et les conduites de jeux pathologiques. Des observations, des recommandations et dans quel cas peut-être même des interdictions, l'impact des écrans sur le développement des enfants, au centre de votre livre. Sabine Duflo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, thérapeute familiale et vous travaillez dans un centre médico-psychologique infanto-juvénile de Seine-Saint-Denis. Votre livre s'intitule « Quand les écrans deviennent neurotoxiques », sous-titré « Protégeons le cerveau de nos enfants » et il est publié aux éditions Marabout. Nous retrouverons en ligne de Bruxelles Diane Huppert, collaboratrice au sein du groupe belge IAPACA, programme de prévention de la maltraitance à l'initiative du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis nous demanderons son éclairage au docteur Ali Njoukendi, pédopsychiatre au centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Les enfants, les écrans, on attend vos appels bien sûr au 33 84 22 75 75 et sur notre page Facebook. Et puis en fin d'émission, on retrouvera la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Sabine Duflo, c'est tout frais, ce n'est même pas encore imprimé. Vous signez aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde, en compagnie de professionnels de la santé infantile. Vous pointez les manquements, justement, en matière de prévention par rapport à la surexposition des enfants aux écrans. Et on y trouve notamment le terme de conflit d'intérêts. Quel conflit d'intérêts, justement, sur cette question ?
Alors, c'est très simple, hein. On ne peut pas à la fois protéger les enfants et protéger les intérêts de l'industrie du numérique. Simplement, les enfants, ça rapporte pas grand-chose. Le numérique, beaucoup. Donc, ce qui se passe avec le numérique, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé pour le tabac, pour l'alcool, pour l'automobile, le pétrole, etc. C'est-à-dire, on sait que c'est toxique, comme pour le tabac ou pour l'alcool, mais on n'informe pas ou on recule ou on minimise l'information pour gagner du temps. Parce que du temps de gagner, c'est des marchés de gagner, d'abord évidemment celui de l'adulte, ensuite celui de l'adolescent, ensuite celui de l'enfant et récemment celui du tout petit.
Et quand on vous écoute, Sabine Duflo, on entend notamment, bien sûr, la praticienne, j'ai décrit vos activités, mais on sent aussi la militante aussi qui s'exprime. Pourquoi une telle conviction justement au service de cette cause ?
Parce que je reçois des parents qui sont désemparés et des enfants qui sont très atteints.
Sabine Duflo, alors justement, on va s'appuyer sur cette expérience, hein, la consultation, c'est vraiment le principal, vos observations de terrain et ce vécu des familles, hein, justement cette souffrance que vous nous racontez, une relation familiale, on peut le dire, qui s'est, au cours des peut-être 15 dernières années, complètement transformée. Est-ce qu'on parle d'une emprise des écrans ?
Oui, c'est une emprise des écrans sur la famille. C'est-à-dire que, en principe, dans une famille, on a des rapports hiérarchiques et un état aussi de transmission, hiérarchie des parents sur les enfants et possibilité de transmettre pour apprendre. Ils ont un rôle difficile qui est celui d'éduquer. Et cette éducation, cette transmission, elle est complètement mise à mal par les écrans qui se sont invités partout, dans toutes les pièces. Il y a aujourd'hui plus d'écrans que de pièces dans une maison et les enfants se retrouvent scotchés à ces écrans et imperméables aux paroles de leurs parents. Et
alors la multiplication des écrans, là, ce dont on parle, ce suréquipement, ça vaut en France, pas forcément dans toutes les régions du monde, notamment celles où nous sommes beaucoup écoutés, mais partout, hein, il y a ces smartphones, c'est absolument planétaire comme phénomène. Et pour le cas de la France, justement, pour revenir à l'actualité récente, il y a eu un plan national de mobilisation contre les addictions. Dans ce plan, Sabine Duflo, les écrans sont présents, on parle même de conduite pathologique. Est-ce que, pour vous, ça veut dire qu'on va dans le bon sens, mais qu'on est encore très loin du but ?
Oui, alors ça commence juste. Il faut savoir que la notion même d'addiction était fortement réfutée. Moi, il y a quelques années, si j'employais le mot addiction, je me faisais taper sur les doigts. Alors, il y a un grand pas a été franchi en juin dernier lorsque l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré les jeux vidéo comme pouvant créer des pathologies addictives. Mais c'est une avancée timide. En réalité, ce sont tous les écrans qui sont concernés.
Alors justement, on parle de surexposition, pas question de les bannir totalement de la vie de tout le monde, Sabine Duflo, mais comment justement arriver à ce bon dosage ? Trop d'écran, c'est quoi exactement ?
Alors, pour l'instant, je pense qu'on commence juste à évaluer l'étendue des méfaits. Moi, j'ai pas de clé. Hein. J'essaye juste d'aider les parents, de les rassurer, de sorte à ce qu'ils reprennent confiance dans les compétences de parents et qu'ils se disent et se répètent que les chefs à la maison, ce sont eux. Donc, moi, là, j'ai souvent dit, pour moi, la meilleure règle, c'est celle qui vaut pour tous, c'est-à-dire où les parents restent des modèles et on va faire en sorte que dans la vie, dans la journée, dans la vie de la famille, qu'il y ait des moments où il n'y ait pas ces écrans pour permettre deux choses essentielles, un attachement de bonne qualité de l'enfant à son parent et la possibilité pour l'enfant de faire autre chose parce que c'est en faisant autre chose qu'il va développer toutes les compétences. Donc ce sont ces fameux quatre pas qui ont rencontré beaucoup de succès tout simplement parce qu'ils sont simples et applicables. Donc je recommande pas d'écran le matin parce que le matin c'est le moment où l'enfant a sa vigilance la plus, son attention où elle est la plus forte et il en a absolument besoin dans les apprentissages scolaires. Donc on n'en met pas le matin et souvent ça a pour conséquence que l'enfant se réveille un peu plus tard parce que beaucoup d'enfants se préprogramment à cause de cette addiction pour regarder leur série préférée, etc. Pas le matin, on n'en met pas pendant les repas pour permettre aux parents et enfants d'échanger. Les repas sont à peu près le seul moment dans une journée de famille aujourd'hui où parents et enfants peuvent échanger et l'enfant a vraiment besoin du regard et des conseils de ses parents et d'être rassuré par ses paroles. Pas d'écran dans la chambre de l'enfant parce qu'à ce moment-là, le parent perd tout contrôle sur le temps que l'enfant passe devant cet écran et sur les contenus qu'il regarde. Et avant de se coucher, environ une heure avant de se coucher, on éteint tous les écrans pour permettre un bon endormissement puisqu'on sait que regarder les écrans empêche la sécrétion de la mélatonine qui est une hormone qui permet le sommeil.
Alors, on va revenir sur ces points, bien sûr, notamment tout à l'heure avec l'échange avec les auditeurs. Il y a le travail de consultation et puis il y a aussi des programmes de prévention. Tout de suite, une illustration. On va rejoindre Bruxelles où on vous retrouve. Diane Huppert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes collaboratrice au sein du groupe IAPACA.be comme Belgique, programme de prévention de la maltraitance à l'initiative du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, cette question des écrans, Diane Huppert, est-ce que c'est vraiment une composante des politiques de protection de l'enfance ?
Alors aujourd'hui certainement, mais ça fait de nombreuses années qu'on s'est penché sur cette question, puisqu'en 2013, nous avons diffusé une campagne qu'on dit 3-6-9-12, donc on a une campagne d'information qui invite et qui initie les parents et les professionnels à suivre le développement de l'enfant en fonction des étapes de sa vie et de son développement pour l'initier aux écrans et aux technologies ambiantes.
Vous dites depuis longtemps, mais est-ce que vous sentez quand même une évolution, certains changements dans la prise en compte des risques ?
Alors, une évolution, certainement. Les écrans sont de plus en plus présents. Ils sont présents dans l'espace public. Et donc, l'usage au cœur de la famille était sans doute notre première préoccupation. Aujourd'hui, se préoccuper aussi des écrans dans les lieux de petite enfance, dans les espaces publics, dans les stations de métro, etc., est aussi une réalité. L'amplification aussi des réseaux sociaux pour les adolescents est une réalité de plus en plus présente qu'il faut penser. Et comme votre invitée précédente, c'est vrai que c'est vraiment de rappeler à tous les adultes, parents, éducateurs, professionnels, la nécessité non pas d'informer les enfants et les adolescents aux dimensions technologiques des écrans et des avancées, mais bien de les accompagner dans la relation au quotidien, dans un accompagnement qui va ouvrir les enfants sur les questions de l'intimité, du droit à l'image, de sa responsabilité quand la question du cyberharcèlement, par exemple, est fort présente lors des rentrées scolaires, mais tout au cours de l'année. Et donc, ce sont toutes des questions qui doivent se penser avec les parents, avec les éducateurs de manière générale, mais dans cette légitimité que l'adulte doit garder à côté de l'enfant. Donc c'est pas seulement une question de quantité d'écran, c'est aussi une question de qualité
et de contenu.
Position éducative.
Est-ce que justement il y a une demande de la part, on va dire au sens large, de ces éducateurs, parents ou personnel éducatif, parfois qui sont un petit peu déboussolés en disant on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment faire?
Oui, alors c'est vraiment ce qui a initié la réflexion chez nous et les différentes campagnes menées autour des écrans. Ce sont toutes ces questions d'abord sur la consommation et l'accompagnement nécessaire, des questions qui émanaient des parents, mais aussi des structures d'accueil. Et aujourd'hui, c'est plus tellement de savoir à quel âge offrir un smartphone, un GSM, c'est vraiment quelles limites, comment accompagner, comment limiter. Alors j'entendais votre intervenante précédente, effectivement, ne pas mettre un écran dans la chambre de l'enfant, etc. Voilà, tous ces conseils pratiques sont pensés à partir des quatre balises d'âge, 3 ans, 6 ans, 9 ans et 12 ans, en rappelant le développement de l'enfant et pourquoi en fait ces balises sont nécessaires en termes de compréhension de ce qu'est un enfant et de ces bons usages et du bon accompagnement qu'on peut.
Vous posez ces balises en termes d'âge, mais est-ce que vous convenez tout de même que même quand on a 12 ou 16 ans, une télé dans la chambre ou un écran en mangeant avec les parents, c'est pas une question d'âge, c'est une question de comportement en général?
Voilà, c'est une question de vivre ensemble, en effet. Après 12 ans, c'est effectivement de rester attentif à respecter des horaires, à respecter une vie de famille, à ne pas mettre une connexion nocturne illimitée dans la chambre d'un adolescent. Voilà, il y a toute une série de règles que même en tant qu'adulte, et donc c'est aussi intéressant parce qu'on était interpellé par une AMO, donc un service d'aide à la jeunesse de terrain, où les adolescents voulaient s'emparer de la question de savoir mais comment limiter la consommation de nos parents qui sont là accrochés à leur smartphone. Et donc là aussi c'est vraiment son propre usage de l'écran en tant qu'adulte qu'on peut penser au quotidien dans la relation avec ses enfants, mais comme modèle, comment nous utilisons cette technologie à notre disposition et comment nous l'utilisons dans le rapport avec nos enfants et les enfants de manière générale. Donc, penser à son usage de l'écran quand on travaille dans une crèche, quand on travaille dans une école, c'est aussi intéressant parce qu'on est modèle de la manière dont l'adolescent, dont l'enfant s'emparera de cette technologie.
De ce support. Merci beaucoup Diane Huppert d'avoir été en ligne avec nous de Bruxelles. On vous retrouve en studio. Sabine Duflo, les campagnes de prévention, c'est quelque chose de très important à vos yeux?
Oui, à condition qu'elles soient claires, bien faites et pas ambiguës.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconnaît l'addiction d'un objet, c'est-à-dire la difficulté ou l'impossibilité pour l'enfant à s'auto-réguler, on va donner des règles claires. Et comme pour toute addiction, ça passe par des sevrages, des moments où il n'y a pas de choses. Et donc, il ne faut pas avoir peur de dire « il n'y a pas de choses à ce moment-là ».
Alors, dans votre livre, hein, c'est le titre de votre livre, vous employez le terme de neurotoxique. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que ça veut dire précisément ?
Ça veut dire que ce que j'observe au quotidien, et c'est relayé aussi par des études, c'est que des enfants qui sont mis, comme on le voit aujourd'hui, hein, très tôt, de façon très tôt, ça veut dire dès la naissance quasiment, hein, devant un écran, ou coupés de la relation à leur maman parce que celle-ci est tapée par son écran de smartphone, donc qui sont exposés environ, je sais pas, 6 heures par jour, vont développer des troubles graves du développement.
Il y a quelque chose qui est assez étonnant quand on vous lit, Sabine Duflot, c'est justement lors de vos consultations, ces parents qui sont déboussolés, perdus, des fois avec des comportements vraiment alarmants de leur enfant. Et il faut que vous leur disiez, il y a un problème avec les écrans pour qu'ils s'en rendent compte, alors qu'ils vous décrivent des situations hallucinantes, justement, quand on entend ces temps d'exposition. Mon enfant a 3 tablettes, 2 télés, il fait des jeux de guerre, des jeux en ligne. Il va pas bien, pourquoi ?
Oui, ses parents sont de bonne foi parce que on a cessé de leur répéter, de leur faire croire que ces objets étaient éducatifs, allaient permettre à leurs enfants d'acquérir un meilleur langage, de s'ouvrir sur le monde. Donc, ils ne se méfient pas. Il y a une étude ELF, comme vous savez, qui vient de paraître, des résultats d'une étude ELF sur les comportements des enfants. Et on pose la question aux mamans, c'est sur des enfants de 11 ans, non, pardon, de 0 à 3 ans, sur les activités physiques. Et ce qu'on s'aperçoit, ce sont les enfants des mamans les plus jeunes, les moins diplômés, qui sont les plus scotchés aux écrans. Là, on a clairement une question de manque d'information. Et par rapport à ces troubles, je voudrais juste revenir. Vous le disiez au début de l'émission, il y a une tribune que j'ai signée avec le collectif qui est paru hier dans Le Monde. Et on s'est contenté de reprendre dans les chiffres de la Direction générale de l'enseignement concernant les enfants scolarisés entre 2 et 11 ans sur 5 ans. Et on voit, et le graphisme est publié dans l'édition numérique du Monde, que le nombre de nos enfants scolarisés entre 2 et 11 ans souffrant de troubles intellectuels et cognitifs, de troubles du psychisme ou de troubles du langage est en augmentation énorme. 24% pour les troubles intellectuels et cognitifs, 54% pour les troubles psychiques, 94% pour les troubles de la parole et du langage, alors que les troubles auditifs, les troubles visuels, les troubles viscéraux sont restés stables sur ces 5 dernières années.
Pour vous, c'est les écrans.
Attendez, ce que je dis juste, c'est que personne ne s'interroge sur ces chiffres-là. Il y a forcément un facteur environnemental sur lequel il faut s'alerter. Les autres restent, et là, on a cette explosion. Il faut s'interroger et prendre en compte ce facteur environnemental qui concerne tous les pays. Vous disiez qu'au départ, il y a des pays qui sont moins équipés. C'est pas vrai. Il y a des pays qui ont vu, les pays notamment d'Afrique, la différence, c'est que ils sont partis de rien avec tout d'un coup tout. Il y a une explosion qui est arrivée. Tout est arrivé en même temps. Donc cette arrivée massive des écrans, tous les pays et toutes les familles du monde sont concernés.
Alors justement, une illustration, puisque on le disait, phénomène planétaire, puisqu'on va rejoindre tout de suite les auditeurs de Priorité Santé. Vous restez avec nous, bien sûr, pour y répondre. Sabine Duflot.
Priorité Santé sur RFI.
Premier auditeur en ligne avec nous, c'est du Bénin que vous nous appeliez, de Cotonou. Rafiat, bonjour.
Oui, bonjour Caroline, bonjour docteur.
Alors, vous pouvez poser votre question, on vous écoute Rafiat.
Ok, d'accord. Ma question est la suivante. J'ai 2 enfants, l'aîné de 7 ans et la petite de 2 ans. Et ils ont ils sont habitués aux écrans. Il y a la télé, il y a la tablette, il y a également mon portable. L'aîné, lui, peut suivre la télé pendant au moins 6 heures, minimum 6 heures par jour. Et également la tablette, là, il n'y a pas d'heure. Il peut se connecter à tout moment et il joue au jeu. La petite, elle, il y a la télé, il y a également mon portable sur lequel elle peut regarder des vidéos avec moi. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que, à leur âge, il est permis de leur laisser les écrans pendant un long moment de temps? Et tantôt, on apprend que les écrans rendent les enfants encore plus intelligents, mais dans un autre temps, on apprend également que ça ralentit leur intelligence. Donc, je voudrais avoir la vraie version des faits, si réellement les écrans rendent les enfants intelligents ou bien les rendent moins intelligents.
Je vais donner tout de suite la parole à Sabine Duflo. J'ai juste une petite question à vous poser, Rafiat. Est-ce que des fois, vous leur dites, on arrête les écrans, les enfants, et quand vous leur dites, par exemple, pour passer à table ou faire une activité, aller voir quelqu'un, comment est-ce qu'ils réagissent, vos enfants?
Bon, l'aîné, lui, se fâche souvent. Il se fâche et, bon, en tout cas, il n'a pas la suprématie sur moi. C'est ma parole qui passe, donc il l'exécute. Mais la petite, elle obtempère. J'éteins la télé, j'éteins mon portable et puis ça passe.
D'accord, Rafiat. Tout de suite, donc, la parole à Sabine Duflo. Je reprends juste votre question en deux mots. Est-ce que les écrans, c'est bon, finalement, pour leur développement, y compris intellectuel? Ou est-ce que les soumettre comme ça, les laisser pendant plusieurs heures, 6 heures, hein, nous dit Rafiat, très longue période, ces enfants devant la télévision ou les écrans, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais, tout simplement?
C'est mauvais parce que le meilleur éducateur pour ses enfants, c'est leur maman, c'est Rafiat, hein. Et je pense que elle le sait. Évidemment, si je voyais ses enfants en consultation, j'essaierais de savoir si son garçon, ça se passe bien à l'école, est-ce qu'il a des bons résultats scolaires, est-ce qu'avec les copains, il joue bien, est-ce que sa petite fille, à 2 ans, elle commence à bien parler, des choses comme ça. Parce que après tout, on peut imaginer, ça peut arriver, même si je l'ai pas vu encore, des enfants qui ferait, je sais pas, 2-3 heures d'écran et puis tout va bien. Là, c'est quand même beaucoup. Alors, les troubles, ça va être quoi? Quand l'enfant est très jeune, avant que le langage soit formé, l'écran, ça empêche quoi? Ça empêche un attachement solide à la maman, hein, parce que la première chose qu'un enfant a à faire, c'est de s'attacher à cette maman pour pouvoir comprendre le monde qui l'entoure. L'enfant qui naît, il reçoit une multiplicité de stimulations auditives, visuelles, sensorielles, tout ça est très qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas hiérarchisés, et c'est le fait que la mère le regarde, s'adresse à lui, qui va lui permettre de filtrer dans ses sensations, ses perceptions multiples qu'il reçoit, et d'orienter son regard vers telle perception plutôt que telle autre, et que les choses prennent un sens. Voilà, ça c'est la première chose. Premier effet d'un trop plein d'écran, c'est un accrochage à l'écran aux dépens d'un accrochage et d'une bonne liaison à la maman ou au papa. Or, on sait aujourd'hui que un bon attachement à ses parents est prédictif à la fois de bonnes compétences relationnelles, mais aussi d'un quotient intellectuel élevé. Effet qu'on peut qui en découle, c'est que les écrans, si vous voulez, quel que soit leur contenu, on parlera si vous voulez après du contenu, mais surstimulent une attention qu'on appelle l'attention réflexe. Et l'attention réflexe, c'est le fait que dès que vous avez dans votre champ auditif ou visuel du mouvement, de la lumière ou du bruit brusque, vous ne pouvez pas faire autrement que de tourner votre attention vers la source de mouvement ou la source lumineuse. Cette attention, on la partage avec tous les mammifères, d'accord? Alors, dans la vie réelle, cette attention-là, elle est assez peu stimulée. Hein, quand je suis dans la forêt, c'est rarement où il y a un sanglier qui fonce sur moi. Mais quand je rentre dans un cartoon, c'est toutes les secondes où il y a un animal féroce qui surgit sur moi et qui surstimule cette attention-là. Or, quand cette attention réflexe-là est surstimulée, vous ne pouvez pas développer, le bébé ne peut pas développer une attention secondaire qui s'appelle la concentration. Et cette concentration, il en a absolument besoin à l'école et tout simplement pour développer son cerveau, hein. Voilà.
Il y a une sorte de, comme un appareil qui s'appelait le stromboscope, ça séquence, oui, ça hache l'attention.
Tout à fait.
Et ça empêche simplement de se poser.
Voilà, parce que de toute façon, pour penser, il faut pouvoir poser son regard sur l'objet pour pouvoir lui donner un sens, pour pouvoir lire, etc. Et ça, l'enfant ne peut plus le faire à partir du moment où il est surstimulé par cet écran. Il est comme sidéré. Et le risque, si vous voulez, c'est que si ça commence très tôt, quand ensuite cette surstimulation s'arrête, il se met à hurler parce que ce que lui propose la mère, c'est-à-dire ses bras, son sourire, son langage, il va le trouver atone, beaucoup moins, attractif finalement que ça. Je vous
vous donner un exemple. Pour je suis en consultation, je descends dans la salle d'attente, un papa a dans ses mains un bébé de 4 mois et qui se met un peu à s'agiter, à pleurer. Aussitôt, il sort un écran et lui montre son portable. Le bébé pile s'arrête de pleurer. Je regarde ce qu'il y a sur ce smartphone, il y a une appli Hochée. On sort l'appli Hochée, c'est un machin qui miroite et qui vibre en même temps. Le bébé s'arrête immédiatement. Ok, je dis au papa, s'il vous plaît, mettez dans la poche votre smartphone. Je sors mon Hochée, mon vrai Hochée, celui que vous connaissez moi aussi. Le bébé se remet à hurler. Il le trouve beaucoup moins intéressant. Il brille pas, il s'agite moins vite, il vibre pas.
Voilà. Rafia, j'ai une question à vous poser. Les enfants 6 heures devant la télé, devant les écrans, ils jouent quand, vos enfants? Ils jouent quand?
Bon, c'est juste, bon, quand il finit de regarder la télé, ou bien quand je lui dis d'éteindre, là, il va prendre son ballon.
Et il n'a pas envie de sortir avec le ballon avec les copains ou aller dans la cour?
Non, non.
Et vous le regrettez, ça, de ne pas voir un peu plus vos enfants courir, sauter, aller jouer dehors?
Oui, oui, oui.
Et vous avez envie de reprendre le dessus, justement, pour, en douceur, leur dire, va jouer dehors et va jouer avec, au lieu de regarder un match ou de jouer à un jeu de foot, va vraiment jouer au foot dehors?
Oui, j'y tiens, je le veux vraiment.
Bon, on vous souhaite une excellente journée à Cotonou au Bénin, Rafiat. Et on va tout de suite prendre en ligne Enoch, qui est en République démocratique du Congo, précisément à Bukavu. Bonjour Enoch.
Bonjour docteur, bonjour.
Sabine Duflo vous écoute. Enoch, à votre tour donc de nous raconter ce qui se passe dans votre famille.
Oui, au fait, dans ma famille, j'ai 3 enfants. Un garçon de 5 ans et 3 mois, une fille de 3 ans et demi et une autre fille d'une année et 8 mois. Alors, à la différence des autres, il y a la fille de 3 ans et demi qui, elle, n'est pas très attachée à la télévision, au téléphone, au smartphone. Mais l'aînée et la cadette, ce sont ceux qui, je dirais, sont accro au téléphone, à la télévision. Ils se réveillent tôt, ils commencent à réclamer qu'on allume. Et ça devient un peu plus compliqué, surtout pour l'aîné, quand il faut faire les devoirs, quand il faut manger. Vraiment, il faut faire toute une longue négociation pour qu'il puisse laisser. Et pour la cadette, elle se contente juste d'avoir le téléphone à main, faire passer, regarder les photos, les vidéos. Et voilà. Alors, l'inquiétude, c'est que, comme le docteur vient de le dire, comme ça commence un peu plus tôt, ça va être problématique. Alors, ma question est celle-ci, c'est de savoir... Cette différence entre les enfants, même lorsqu'ils sont dans la même famille, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence? C'est dû à quoi? Qu'il y ait certains enfants qui soient plus accro à la télé, au smartphone, aux jeux vidéo
que d'autres
par rapport à d'autres. Est-ce que c'est un fait psychologique, biologique, naturel, ou il y a une part de responsabilité pour nous les parents? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir... Bon, de toute façon, les enfants, ils ont les téléphones, la télévision à leur portée, mais c'est de savoir quelle peut être la durée moyenne acceptable par jour pour un enfant qui a entre 6 ans et 2 ans par rapport au temps qu'il doit passer devant la télé avec les jeux vidéo, avec les smartphones. Et à ces deux questions, j'ai une autre question peut-être pour savoir est-ce qu'il y a des astuces pour des enfants qui sont déjà dans une telle situation, de pouvoir réparer ou de pouvoir corriger cet attachement à la télé ou au smartphone.
Sabine Duflo va vous répondre. Juste Enoch, moi j'ai un petit commentaire personnel. 1 an et 8 mois, vous dites des smartphones à portée de main à disposition, c'est un petit peu jeune, 1 an et 8 mois, pour même pas 2 ans pour avoir... Vous dites des smartphones, ils peuvent quand même les casser, etc. Il y a des téléphones dans la maison, comme ça, à disposition? Ou c'est la télé pour...
Oui,
pour...
Il y a des téléphones
à disposition dans la maison,
oui,
comme
la
ça
télé... Oui, il y a des téléphones aussi qu'elle peut toucher, qu'elle prend juste pour regarder.
La question que vous posez, Enoch, c'est celle de la responsabilité des parents. Comment, Sabine Duflo, comment poser des limites, comment reprendre la main, et pourquoi des enfants ont des attitudes ou des attirances différentes par rapport à ces écrans?
Oui, alors les questions d'Enoch sont très complètes. Il a tout dit, donc c'est très bien. D'abord, vous lui posez la question pourquoi un an, mais parce que il y a un manque d'information. Voyez, je pense que si Enoch téléphone, c'est qu'il vraiment il se pose des questions, il observe ses enfants, ce qui est toujours c'est vraiment la meilleure des compétences parentales, mais il est mal informé. Hein, je répète, on commence tout juste à être informé en France. Dans les pays d'Afrique, ils sont reçus en plein figure, on va dire, tous ces écrans, mais sans information. Et il n'y a pas que dans les pays d'Afrique. Je cite une étude de l'AAP, l'Association américaine de pédiatrie, qui est parue en 2015, qui portait sur des enfants, sur 350 enfants entre 6 mois et 4 ans. On retrouve un peu les mêmes conclusions que celles de l'étude ELF. Eh bien, il s'agissait principalement d'enfants issus d'une population minoritaire et à faible revenu, et on voyait qu'à l'âge de 4 ans, la moitié des enfants avaient leur propre télévision dans leur chambre et les trois quarts possédaient un écran mobile. Presque tous utilisaient les écrans mobiles, 96,6%, et la plupart avaient commencé avant l'âge de 1 an. Donc ce problème d'un manque d'information, il est global. On n'a pas de mauvais parents, on a des parents mal informés, hein, je le répète. Alors maintenant,
Comment faire justement pour les détacher, ces enfants, des écrans? C'est ce que demandait Enoch tout simplement.
Comme faisaient Enoch vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, on les détache, c'est-à-dire qu'on éteint définitivement parce qu'ils sont addicts. Hein, donc surtout, on ne l'utilise pas comme un objet de récompense. Ah ben, t'as été sage, alors maintenant t'auras le droit à ta demi-heure de télé ou de jeu, parce que ça va du coup le rendre encore plus désirable. Non, on l'oublie complètement et on propose de jouer avec l'enfant, parce qu'un enfant qui a mis beaucoup devant les écrans, il ne sait plus jouer seul. Il n'a pas appris à le faire. Donc on joue avec lui, on s'intéresse à ce qu'il fait pour qu'il s'intéresse à ce qu'il fait lui.
On lui donne du temps pour qu'ensuite
il utilise ses ressources internes pour s'amuser. Et puis Enoch, surtout n'oubliez pas une chose, quand vous posez la question du temps, la durée moyenne, sachez que les gens qui construisent les logiciels de jeu, que les gens qui créent des programmes d'animation pour enfants, ces gens-là n'utilisent pas ces outils chez eux, ou très très peu. Je me permets de dire, hein, c'est un peu polémique, mais je suis au Conseil supérieur d'audiovisuel dans le comité expert jeunes publics, avec peu de personnes de la santé et beaucoup de gens qui sont des représentants des entreprises de jeux vidéo, de chaînes de télé, des concepteurs, etc. Eh bien, ces gens-là, ils sont sincères quand ils parlent de leurs enfants. C'est le moment où ils sont sincères, on va dire. Eh bien, ce qui me frappe à chaque fois, c'est la façon plus que pondérée avec laquelle ils utilisent ces appareils. Il n'y a pas la télé ouverte en permanence chez eux. Elle est jamais ouverte, en fait, ou juste pour regarder telle petite chose accompagnés avec leur enfant. C'est-à-dire que pour eux, ils prennent le plus grand pour leurs propres enfants, ce qu'ils ont de plus cher. Eh bien, ils vont prendre ils vont utiliser au minimum, en fait, ces appareils. Voilà. Donc, faites comme eux.
Essayez de limiter l'écran, voire carrément de proscrire 1 an, 8 mois, c'est tôt. Hein. C'est vrai que des fois, quand on est fatigué aussi, on est tenté aussi de recourir à ces moyens pour retrouver le calme. Mais comme Sabine Duflo vous l'a dit, ce n'est pas la bonne solution. Merci infiniment, hein, pour cet appel de Bukavu en RDC, Enoch. Et justement, on ne va pas quitter la République démocratique du Congo. On va rejoindre tout de suite Kinshasa.
RFI.
Pour vous retrouver, docteur Aline Djoukendi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre au centre de neuropsychopathologie de l'université de Kinshasa. On l'a entendu tout à l'heure avec cet auditeur de Bukavu. C'est une question qui se pose vraiment en RDC. Est-ce que beaucoup de personnes en consultation, docteur Djoukendi, abordent cette question des écrans, de la surexposition?
Oui, il est vrai que dans nos consultations usuelles, c'est difficile, presque rare, que le parent se plaigne d'un tel problème. Par conséquent, il se plaint de ce problème de manière indirecte, lorsqu'il y a déjà des conséquences. Tenez par exemple, lorsqu'il y a des décrochages scolaires où l'enfant fait beaucoup d'insomnie, pendant qu'il doit être au lit, il a soit un poste téléviseur devant dans sa chambre, soit les iPads, les jeux électroniques ou les téléphones, et les enfants passent tout leur temps en train de jouer ou en regardant la télé et perdent leur qualité du sommeil. Et répercussion, le lendemain matin, quand ils se réveillent, ils n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Et aussi, on a eu à remarquer beaucoup d'enfants qui ne faisaient pas des crises épileptiques et qu'après avoir fait des examens, il n'y avait aucune organicité. Par contre, il y avait cet élément-là et que l'enfant il avait déjà développé une addiction à ces jeux-là.
Avec une surexcitation visuelle qui conduisait à ces crises, docteur Djoukendi, c'est ça?
Oui, c'est possible. Et nous avons eu parfois chez certains enfants où au cours de prélèvements où on était en train de faire l'électroencéphalogramme, et lorsqu'on faisait la stimulation lumineuse, et tout d'un coup, certains enfants faisaient déjà la crise. Et quand on interrogeait, les parents n'étaient pas au courant que l'enfant faisait la crise. Et dans l'anamnèse, qu'on va découvrir que non, cet enfant avait déjà développé une certaine addiction à ces jeux-là. Mais il y a quand même une mention particulière, surtout pour les enfants qui ont des troubles de spectre autistique, qui développent déjà cette stéréotypie gestuelle, ce retrait social et reste accro à ces jeux-là. Qui malheureusement, ces jeux font que, malgré le retrait social qu'ils ont, ça rend encore très difficile leur réinsertion et des interactions interpersonnelles.
Docteur Aline Djoukendi, vous disiez les parents viennent en général pour autre chose. Ça veut dire que vous aussi, vous constatez un vrai manque en termes d'information et de prévention?
Oui, avant nous croyons que c'était l'impression qu'on avait, c'était que c'était plus pour les enfants des familles nanties. Mais ici, vu dans la ville de Kinshasa, lorsque vous promenez pratiquement sur chaque coin des rues que vous avez maintenant ces jeux-là qui se sont multipliés et cette fois-là à moindre coût, vous voyez les enfants qui doivent chercher un peu d'argent, même l'argent des poches qu'on leur donne à l'école, soit même développer des vols pathologiques, rien que pour aller jouer à ces jeux-là. Comme un problème, nous, il y a deux fois, nous en parlons, les rares deux fois, lorsque nous sommes en contact avec les élèves dans certaines écoles, mais au grand jour dans la population reste encore vraiment ignorante par rapport à ce problème, qui est vraiment un véritable problème de santé publique.
Et justement, qu'est-ce que vous proposez comme prise en charge? Qu'est-ce que vous dites à ces parents, hein, on l'a compris, à ces désemparés qui viennent en consultation?
La prise en charge, c'est à deux niveaux. Surtout pour ces enfants-là qui présentent par exemple des crises épileptiques, le plus souvent nous utilisons des anti-épileptiques. En réalité, nous soignons cette addiction de manière indirecte parce que lorsqu'on devient addict au niveau du cerveau, tout se passe par le système de récompense où vous avez le taux élevé de la dopamine et à ce moment-là, lorsque la dopamine est très élevée, le taux des GABA est bas. Les anti-épileptiques concourent au rôle de pouvoir augmenter le taux des GABA. À ce moment-là, au niveau du système de récompense, on fait un contre-pôle par rapport au taux élevé de la dopamine et le plus souvent, nous avons de bons résultats. Deuxièmement, c'est plus l'approche psychosociale. Et beaucoup d'enfants, il faut savoir la raison qui aurait poussé l'enfant à devenir addict à ça. Et parfois, nous avons de mauvaises interactions au niveau familial, des enfants qui ont des problèmes, des interactions avec leur famille, les types d'attachement que l'enfant a avec sa mère. Généralement, certains enfants, dans notre expérience, ont eu à remplacer cet attachement à une figure, donc d'attachement, à un attachement à l'objet. Et le plus souvent, l'objet qui est dans leur première portée, c'est ces jeux-là.
Ça veut dire que vous allez vers une thérapie forcément familiale pour rétablir ces interactions?
Oui, il faut intégrer le parent pour apprendre aux parents, parce que les parents sont ignorants. Les parents, parfois, ils achètent ces jeux-là sans savoir les conséquences que cela pourrait avoir dans le développement psychosocial de leurs enfants.
Merci beaucoup. Merci, docteur Ali Djoukendi. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre au Centre de neuropsychopathologie de l'Université de Kinshasa en RDC.
Priorité santé sur RFI.
On continue de parler des conséquences de la surexposition des enfants aux écrans. On a parlé avec votre confrère à Kinshasa de l'épilepsie. Autre problème de santé très simple, hein, autre problème de conditions de vie associées à cette surexposition, c'est la sédentarité des enfants qui ne jouent plus, on va dire, dehors, qui ne gambadent plus, avec vraiment des problèmes pour leur développement, là, on va dire, physiologique.
Complètement, oui, ça a des conséquences sur le développement moteur, cardiaque, sur le poids. Et ce qui est compliqué, c'est que on pointe les écrans qui effectivement sont toxiques, mais les parents ont plus de difficultés que nos parents ou nos grands-parents à s'appuyer sur l'extérieur. Un parent aujourd'hui, il ne dit pas facilement à son enfant, écoute, là tu m'embêtes, tu prends ton ballon et tu vas jouer dehors. Parce que dehors, il n'y a pas, c'est moins d'espace vert, beaucoup moins, où ça peut être dangereux dans certaines cités, dans certains endroits. Donc le parent a l'impression, le sentiment que l'enfant est plus en sécurité s'il reste à l'intérieur de la maison que s'il va dehors. Et on a comme ça aujourd'hui, c'est ce que montrent d'ailleurs les résultats de l'étude d'EV, des enfants qui sortent plus du tout, du tout. Et c'est ce que j'appelle le phénomène de la domestication de l'enfant. L'enfant, du coup, est considéré comme une espèce de plante verte, ou qu'animal domestique, parce qu'encore un animal domestique, on le sort, mais il y a des enfants qui sortent moins que les chiens, hein, il faut le dire. Donc, et ça, c'est absolument délétère. Et ça n'est pas parce que ce sont des mauvais parents, c'est que les parents courent partout, ils ont l'impression de donner le maximum à leur enfant, c'est-à-dire une sorte de sécurité, mais juste voilà, et que ça suffit. Or, l'enfant élevé par des écrans est en grand danger psychique.
Avec notamment la question fondamentale des contenus, on a beaucoup parlé du temps, de ce temps d'exposition, également des images parfois déconseillées à leur âge qui leur arrivent devant les yeux et au cerveau, avec des enfants qui peuvent même se retrouver en situation de choc, de traumatisme.
Oui, complètement. Alors, par le biais d'Internet, les enfants ont accès, si les parents ne font pas attention, ne mettent pas de filtre, peuvent se retrouver en un clic devant des images d'une grande violence ou des images porno qui ont toutes un effet de sidération.
Alors, on parlait sédentarité, on parlait épilepsie. On a un auditeur qui nous a laissé un message. Hélas, on n'a pas le temps de l'avoir en ligne. Il parle de son frère. Hein, c'est Élie à Lomé, au Togo. Son frère a 10 ans, il est en CM2. Il le décrit comme accro à la télé. Et là, on est carrément devant un insomniaque de 10 ans. Il reste scotché devant la télé. Et il se réveille même la nuit, quand tout le monde dort, pour regarder la télé, là, les rythmes chronobiologiques complètement bouleversés.
Oui, tout à fait. Bon, bah là, on a vraiment, on voit on voit bien que là, il y a le phénomène de l'addiction. L'enfant abandonne ou l'adulte toutes ses activités au profit d'une seule, et il en oublie même les activités essentielles comme le sommeil. Voilà, alors maintenant...
Réponse pour des parents, justement, quand on sait que l'enfant se réveille, on va dire, en douce pour aller allumer la télé, comme...
Ah bah là, c'est très simple, on éteint, on débranche...
On retire la prise.
La prise.
Et la confiscation de la prise, ça marche très très bien, hein. Pas la peine de déplacer la télé.
Oui, je vous donne un exemple sur cette question d'addiction, puis d'accrochage à des contenus inadaptés. Hier, j'étais à une conférence au Collège La Justice, à Cergy. Voilà. Voilà, environ 45-50 personnes, maman, papa qui était là, et une maman me dit écoutez, comment je fais, mon fils il a 11-12 ans et en fait il sait pas faire autre chose que jouer, il passe toute la journée, il est sur Fortnite, et quand je l'enlève c'est des crises, des hurlements, donc au bout d'un moment je craque, et puis de toute façon il me dit, ils tourneront, il ne sait pas quoi faire. Et une autre maman lève la main et lui dit écoutez, moi j'ai eu ce problème il y a un an avec mon fils, il voulait plus aller à l'école, il ne s'intéressait plus qu'à ça, c'était un zombie. Donc on a tout arrêté pendant un mois, tout, complètement. Mais la maman dit, mais quoi tout ? Tout ? Il n'avait plus accès à aucun appareil numérique, aucun téléphone, rien pendant un mois. Et au bout d'un mois, on a remplacé ça par du jeu, on a des sorties, etc. avec lui, et ça s'est arrêté. Au bout d'un mois, on a réintroduit tout doucement. Mais tout doucement, c'est presque rien, c'est une demi-heure tous les deux jours. Et maintenant, il est guéri, c'est-à-dire qu'il a du plaisir à aller vers les autres, à retourner. Donc, cette addiction, elle passe forcément par un sevrage, comme toutes les addictions. Je connais pas au monde une addiction qui passe pas par un sevrage. Hein, pour quelqu'un qui est accro à l'alcool, vous n'allez pas lui dire, écoutez, on va commencer par diminuer, vous allez passer de 2 litres à 1 litre par jour. Ça n'a pas de sens.
Merci beaucoup. Hein. Merci Sabine Duflo d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne, thérapeute. On rappelle le titre de votre livre, « Quand les écrans deviennent neurotoxiques », publié aux éditions Marabout.
parle tout de suite d'activité physique dans Priorité Santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Alors, vous nous conseillez à chacune de vos chroniques de faire du sport, d'avoir une activité physique. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils justement sur le choix de cette activité physique quand on commence, quand on débute? Quel sport choisir? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter?
D'abord, la première chose, c'est de ne pas se forcer. Il faut se faire plaisir avant tout. Ça sert à rien de se forcer à faire un sport parce que le risque, c'est de l'interrompre rapidement. Et donc, la pratique du sport ne doit pas être une contrainte. Il faut plutôt essayer de tenir sur la longueur et surtout pas s'interrompre au bout de quelques semaines. La deuxième chose, c'est de ne pas se presser. Il ne faut pas hésiter à essayer plusieurs activités sportives avant de se décider. Il faut essayer, tester plusieurs activités. Il est possible aussi d'alterner aussi plusieurs activités par semaine, comme par exemple faire du vélo et puis des exercices au sol, de renforcement. Et puis enfin, il faut tenir aussi compte du coût. Tous les sports n'ont pas le même coût. Si on se met à vouloir faire du golf, ça a un coût certain. Donc il vaut mieux être certain et être persuadé de bien vouloir faire ce sport avant d'investir dans du matériel. Mais souvent, il y a des clubs qui mettent justement à disposition du matériel pour pouvoir faire gracieusement ou en tout cas à moindre coût, pour pouvoir faire des essais et savoir si on est vraiment accro.
Notamment dans le milieu scolaire, des sports à moindre coût. Ce qui est important, c'est aussi de prendre vraiment compte de ses habitudes, en fait, de ses goûts personnels.
Absolument, Caroline. Vous, par exemple, si vous aimez être en groupe, il y a des sports d'équipe, le foot, le volley, le handball, ou pourquoi pas même le badminton qui peut jouer en double. Si au contraire vous aimez être seul, pourquoi pas faire du vélo, de la marche, de la natation. Certaines personnes préfèrent avoir des sports d'intérieur. Et là, on peut faire les deux, à la fois des sports en seul ou des sports en groupe. Et puis, surtout, dans les salles de sport, on peut bénéficier de conseils. Alors, l'important, par contre, dans les salles de sport, c'est de ne pas se précipiter. Parce que, quelquefois, on est motivé au départ, on se dit, tiens, je vais prendre l'abonnement de 2 ans.
S'il y a une réduction, surtout, c'est ça.
Il y a une réduction. Quelquefois, au bout de 3 mois, il n'y a plus personne. Alors,
c'est une bonne affaire en même temps pour le propriétaire de la salle de sport.
Exactement. Donc, le mieux, c'est de prendre peut-être une formule d'un ou deux mois, d'essayer et puis de voir si c'est bien adapté. Et puis, si on aime bien la nature, évidemment, il faut pas hésiter, faire des randonnées, de la marche, bien sûr, du vélo aussi. C'est tout à fait adapté au sport extérieur.
Alors, docteur Jean-Marc Saneskia, un sport pour les petits, un sport pour les grands, est-ce qu'on choisit son sport en fonction de sa morphologie?
C'est pas une obligation. C'est vrai que...
Vous me conseillez le basket.
Exactement. C'est vrai que si on a un sport adapté, on va progresser plus naturellement, on va prendre plus de blessures. Alors, on parlait du basket, évidemment, il est plutôt adapté aux grandes tailles, c'est-à-dire à vous, Caroline. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être grand, mais il faut aussi avoir des qualités de vitesse, de souplesse. Le cyclisme, à l'inverse, si on a un grand gabarit, c'est pas terrible. Et surtout, s'il y a une surcharge pondérale, ça va être un handicap, surtout dans les montées. Dans les descentes, c'est un peu mieux, mais voilà. Allez, les sports de combat, le judo, le karaté, la boxe thaï, la lutte, par exemple, au sol, toutes les tailles, tous les poids ont leur chance parce qu'il y a des catégories de poids. La seule chose, c'est qu'il faut avoir une constitution un petit peu solide quand même pour pouvoir le faire. La natation, tout le monde peut être tout à fait initié à la natation, quelle que soit sa morphologie. Finalement, effectivement, en fonction de sa morphologie, c'est un petit peu mieux de choisir son sport.
Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de faire du sport, mais quand on a une maladie, par exemple une maladie chronique, ou alors qu'on avance en âge?
Si une maladie, ou si on est dans le cadre d'une reprise d'activité physique, c'est-à-dire que finalement il y a un événement physiologique qui vient s'interposer, c'est bien de prendre conseil auprès de son médecin, évidemment. Et surtout en ce qui concerne l'âge, il y a un palette de sport possible qui est très varié aussi, et globalement, à partir de 45 ans, généralement, on propose plutôt des sports d'endurance. Ou en tout cas, il faudrait que le sport soit adapté à son état de santé, bien évidemment, à son âge et à ses capacités physiques. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que grâce à ces conseils, j'espère que nos auditeurs pourront profiter d'une rentrée sportive.
Et en pleine forme. Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. À très bientôt dans Priorité Santé. Priorité Santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour réalise et fabrique votre émission. Demain, nous parlerons du cœur à l'occasion des journées européennes de cardiologie. On attend bien sûr vos questions au 33 84 22 75 75. Et à demain, dès 9h10, temps universel.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounois Assurance qui vous souhaite 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.